Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, première de deux émissions, aujourd'hui intitulée « Justinien, empereur et théologien », consacrée à l'empereur Justinien qui a régné sur l'Empire romain de 527 à 565. Justinien a marqué son époque dans plusieurs domaines. La politique et les conquêtes militaires, la codification du droit romain et une série de nouvelles lois dont plusieurs concernent l'Église, puis la théologie, à savoir une remarquable contribution à l'élaboration du dogme christologique. Pour parler de ce grand empereur et de son œuvre, en particulier théologique, nous recevons Alain Le Bouluec, directeur d'études émérite à la 5e section de l'École pratique de hautes études, où il enseigna pendant longtemps la patristique et l'histoire des dogmes. Alain Le Bouluec est notamment l'auteur d'un article sur Justinien paru dans le volume intitulé « La théologie byzantine et sa tradition » dont le tome 1.1 est paru sous la direction de Giuseppe Conticello en 2015 chez Brepols. Alain Le Bouluec, votre article sur Justinien est en quelque sorte un prolongement de vos travaux précédents qui portaient sur des auteurs chrétiens des premiers siècles, on va dire, du christianisme. Pour commencer, si vous voulez, un commentaire sur la place qu'occupe Justinien dans la longue chaîne de la formation des dogmes fondamentaux de l'Église.
Oui, en effet, moi j'ai commencé par étudier la tradition alexandrine avec les œuvres de Clément et d'Origène. Je me suis intéressé aussi à la notion d'hérésie dans les premiers siècles. Et lorsque mon ami Giuseppe Conticello m'a entraîné dans l'aventure de la théologie byzantine, je n'ai pas refusé pour diverses raisons. D'abord parce que je retrouvais là les débats théologiques, les controverses, la lutte aussi contre les hérésies. Et parce que Justinien produit, avec ses conseillers en théologie, la définition du dogme christologique qui conclut des siècles de controverses, de débats, qui vient après un concile de Chalcédoine très important de 451. Et on peut dire que, avec l'œuvre de Justinien et surtout le concile de 553, dont il a pris l'initiative, nous avons là le socle de la christologie pour l'Orient chrétien, pour toute la tradition byzantine.
Merci. C'est très important ce que vous dites parce que on voit aussi que Justinien et toute cette période de formation du dogme christologique sont une suite tout à fait naturelle à ce qui s'est passé avant. Parce qu'évidemment, en faisant commencer la théologie byzantine au VIe siècle, on peut avoir l'idée ou penser que c'est quelque chose d'indépendant par rapport à la patristique. Mais c'est une question de terminologie, c'est ça?
Oui, d'autant que la réflexion de Justinien et des théologiens ses contemporains se construit à partir de la définition du Concile de Chalcédoine de 451 et qui est le résultat elle-même de des controverses entre Nestorius, le patriarche de Constantinople, et Cyril, le patriarche d'Alexandrie, autour précisément de la question des deux natures ou de la nature unique du Christ. Et ces réflexions qui aboutissent à Chalcédoine remontent aussi à des projets, des pensées, des élaborations antérieures qui appartiennent au siècle d'or de la patristique.
On va, si vous voulez bien, maintenant entrer dans le vif du sujet pour parler de Justinien. D'abord, aujourd'hui, peut-être pour cette première émission, on va parler du personnage Justinien empereur, Justinien juriste, théologien aussi, mais c'est ce qu'on va voir de manière plus analytique pour la deuxième émission. Alors peut-être, pour commencer, sa biographie, si je puis dire, quelques éléments sur sa vie.
Oui, de façon très succincte. Là, nous pouvons renvoyer à divers travaux, notamment ceux de Pierre Maraval, récents sur Justinien. Donc Justinien est né vers 482 au sud de la ville de Skopje actuelle, dans la Macédoine contemporaine. Donc son oncle Justin était un grand soldat et ses mérites militaires lui avaient acquis une position très importante à la cour quand il fit venir son neveu à Constantinople. En effet, Justinien était le neveu de Justin et à la mort de l'empereur Anastase en 518, Justin est choisi pour lui succéder. Or, Petrus Sabbatius, qui s'appellera ensuite Justinien, du nom de son père, Sabbatius, a dû prendre part aux intrigues et qui ont conduit Justin au sommet du pouvoir. Justinien a alors déjà 35 ou 36 ans. Il est depuis longtemps à la cour, où il a certainement reçu une éducation très approfondie dans les divers domaines, en particulier du droit et sans doute de la rhétorique. Et dès cette époque-là, après 518, donc, Justinien devient l'un des principaux conseillers de son oncle. Justin lui confère le titre de consul le 1er avril 527 et il devient le seul empereur à la mort de Justin le 1er août 527. Notons qu'en 525, il a épousé Théodora, donc l'impératrice qui jouera à côté de lui un grand rôle politique, mais aussi qui interviendra dans les affaires religieuses. Parmi les événements qui marquent le début de son règne sur le plan politique, on se souvient de la sédition dite de Nika, qui veut dire « sois vainqueur », qui était le mot de ralliement des rebelles, de ceux qui s'étaient révoltés contre le pouvoir de Justinien et qui avaient coalisé de façon exceptionnelle les factions de l'hippodrome, les verts et les bleus, contre le pouvoir de l'empereur. Et c'est lors de cette révolte que l'impératrice Théodora a manifesté une grande énergie, a contraint finalement Justinien, son époux, et les hauts personnages qui étaient prêts à fuir et à céder devant la révolte populaire, à résister. Et on lui prête ce mot « la pourpre est un beau linceul ». Si on peut passer à peut-être les objectifs principaux de Justinien tout au long de son règne, on peut, à la suite de Pierre Maraval, repérer trois domaines dans lesquels il est intervenu de façon très efficace. Tout d'abord, il a voulu rétablir l'Empire romain dans son intégrité et sa prospérité, en renforçant l'État au moyen d'une réforme législative et administrative. Les documents les plus importants et qui marquent son investissement dans ce domaine, c'est la promulgation en 529 du Code Justinien, qui réunit et classe toutes les constitutions impériales depuis l'époque d'Adrien, au IIe siècle, avec une nouvelle édition en 534, qui est augmentée des ordonnances prises par Justinien lui-même depuis 529. À cette somme des constitutions impériales, il faut ajouter la publication du Digeste, un volume des opinions des juristes les plus éminents de l'Antiquité, destiné à la formation des étudiants en droit, en 533, et les Instituts en quatre livres, publiés en 533, aussi pour la formation, pour diriger, pour contrôler les réformes juridiques. Il y a donc ces documents, ce Code Justinien en particulier, qui est fondamental et qui est encore le socle du droit romain au Moyen-Âge. Il y a aussi la réforme administrative. Justinien a publié tout au long de son règne 168 édits, 168 nouvelles. Il a pris des mesures très novatrices en matière d'administration. Il a supprimé la vénalité de certaines charges et créer de nouveaux fonctionnaires dotés d'un traitement et tenus à l'honnêteté. Il cherche aussi à remédier aux abus des grands propriétaires et la recherche de financement l'a amené parfois à sévir et à confisquer des biens, des terres, ce qui a provoqué l'ire de grands aristocrates terriens contre lui-même. L'autre grand axe de son action, c'est d'avoir voulu rétablir l'unité de l'Empire. En effet, au moment où Justinien prend le pouvoir, arrive au poste, à la situation d'empereur, l'Empire est réduit à ses provinces orientales. L'Afrique du Nord est au pouvoir des Vandales, la Bretagne des Germains, la Gaule et l'Espagne de rois francs, Burgondes ou Visigoths, et l'Italie est gouvernée par un roi ostrogoth, Théodoric, puisque le dernier empereur romain d'Occident a été déposé en 476. Donc Théodoric, au temps où Justinien arrive au pouvoir, gouverne l'Italie et la Dalmatie et le Norique. Donc La première entreprise militaire de Justinien, c'est la reconquête de l'Afrique, hein, par les armées de l'un de ses grands généraux, Bélisaire. Et cette reconquête est obtenue en 534, confirmée en 548. Puis vient la reconquête beaucoup plus difficile de l'Italie, hein, de 535 à 552, par Bélisaire d'abord, qui subit cependant de graves échecs contre le nouveau roi, Totila, et puis par l'autre grand général de Justinien, Narsès. Ses succès en Italie et en Afrique sont très coûteux. Quant aux frontières orientales, pour les contrôler, Justinien est obligé d'acheter au prix fort une trêve avec les Perses. En 532, il agit de la même façon avec ce qu'il appelle les barbares du nord et du nord-est pour les contenir, les Huns et les Slaves, donc au nord et aussi au sud-est, les Sarrasins. C'est une politique très coûteuse qui réclame de gros investissements financiers et la reconquête de l'Occident a épuisé l'Orient. En tout cas, autant Justinien lui-même a essayé, et une grande partie réussit, à rétablir l'unité de l'Empire sous son pouvoir unique.
Merci. Donc, il réussit à reconquérir une grande partie, surtout occidentale, de l'Empire, une réorganisation administrative. Le droit, c'est très important, parce que c'est arrivé jusqu'à nous, si je puis dire, indirectement par le droit romain, hein, c'est passé en Occident aussi. Et évidemment, la théologie dont on va parler tout à l'heure, une pause maintenant, on va dans l'église, et on va entendre un extrait de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire la liturgie qui est chantée tous les dimanches dans les églises orthodoxes. Et là, il y a un texte de Justinien qui est chanté à chaque fois, un texte dogmatique. C'est donc le fameux texte « Fils unique » qui est ici chanté par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lyrgouros Angelopoulos. Père dit de Justinien, donc fils unique, chanté à chaque fois que la divine liturgie est célébrée dans une église orthodoxe, un texte donc de l'empereur Justinien, en tout cas que la tradition lui a attribué. Et c'était ici le chœur byzantin de Grèce que dirigeait Lycurgos Angelopoulos. Nous revenons à notre discussion sur Justinien avec Alain Lebluec, et cette fois-ci nous allons parler de Justinien, théologien. Alors peut-être un mot avant pour expliquer quelque chose qui paraît quand même assez étrange, je dirais, à notre époque et peut-être en France encore plus, un empereur, un chef d'un État qui se mêle lui-même aux querelles théologiques, qui prend position, qui participe au débat, qui produit des textes par lui-même ou sa cour, etc. Alors comment peut-on expliquer cet engagement impérial ?
D'une part, de même que Justinien a voulu reconstituer l'unité de l'Empire, il a voulu imposer à l'ensemble de l'Empire une foi unique, une foi orthodoxe. Donc il a pris des mesures dès le début contre les païens, contre les manichéens, et aussi contre ce qu'on appelait alors les hérétiques, c'est-à-dire qui, à l'intérieur du christianisme, étaient considérés comme des dissidents, comme fauteurs de désordre. Et ça politique de Justinien à l'égard des hérétiques est assez fluctuante. La raison principale, c'est que le pouvoir de l'empereur est un pouvoir théocratique et il se sent tenu de produire une confession de foi, d'imposer à l'ensemble des sujets une foi unique qui soit conforme à la tradition orthodoxe antérieure et en particulier à celle qui a été définie au Concile de Chalcédoine en 451. Ce qui peut nous étonner à notre époque, c'est que les questions religieuses en Occident sont très mobilisatrices. Le peuple chrétien est directement concerné, il s'engage fortement dans ces débats et parfois avec beaucoup de violence. On peut citer peu avant justement l'arrivée de Justin au pouvoir impérial en Syrie, une troupe de 1000 moines qui étaient fidèles au Concile de Chalcédoine et qui allaient au sanctuaire de Siméon le Stylite et qui sont tombés dans une embuscade tendue par les moines anti-chalcédoniens. Et il y a eu 300 morts et beaucoup de blessés. Enfin, c'est l'un des exemples. Un autre exemple aussi qui peut expliquer pourquoi un empereur s'intéressait de près à la politique religieuse, c'est l'exemple de Vitalien, hein, un haut personnage sous l'empereur précédent, Anastase, et qui, lui étant chalcédonien, a utilisé ce parti pour tenter, au fond, de prendre le pouvoir, et il a menacé Anastase à la tête de 60 000 hommes. Les questions religieuses ont une incidence directe, immédiate, sur l'exercice du pouvoir, et un empereur ne veut pas se dispenser, donc, de régenter dans ces matières aussi. Par ailleurs, Justinien lui-même a un goût personnel pour la théologie. Il le montre dès ses premières interventions, lorsque son oncle, l'empereur Justin, en fait son conseiller principal dans les négociations avec Rome, comme on pourra le voir par la suite. Ce goût de Justinien pour la théologie nous incite à penser que son rôle est très important dans la rédaction, dans la production des écrits et qui sont passés sous son nom, des constitutions, des textes dogmatiques. Sans doute n'était-il pas l'auteur, celui qui a rédigé ou préparé tous les dossiers des pères de l'Église qui étaient invoqués pour soutenir la définition de la foi orthodoxe, mais il a manifestement contrôlé la totalité et a posé sa marque à ces textes qui manifeste une grande cohérence dans l'ensemble de tous ses écrits et théologiques. Il avait évidemment par ailleurs la possibilité de faire appel à des conseillers théologiens comme Hypatios d'Éphèse ou bien Théodore Askidas. Il pouvait aussi se reposer sur la Synodos Endemoussa, le concile permanent des évêques résidents à Constantinople qui pouvait l'aider. Mais enfin, plus encore sans doute que pour l'élaboration du code justinien en tant que juriste, dans le domaine théologique, Justinien est intervenu de façon personnelle, directe et productrice.
Si vous voulez bien, pour les quelques minutes qui nous restent, on va essayer de résumer en quelques mots la vraie question théologique qui se pose à cette époque-là. Celle des deux natures, enfin des natures du Christ, hein, déjà posée, comme vous avez dit, dès le milieu du 5e siècle, le Concile de Chalcédoine, oui, qui avait tranché sur la question. Mais évidemment, il faut voir aussi quelle est la position de Justinien et quel est l'enjeu politique aussi sur cette question-là, puisqu'une grande partie de l'Empire ne suit pas cette théologie.
Oui, effectivement, les anti-chalcédoniens sont très forts en Orient, en Syrie et surtout en Égypte. À l'époque contemporaine de Justinien, et avant lui aussi, un personnage comme Sévère d'Antioche, un grand évêque, grand théologien, ancien moine, a été l'un des acteurs majeurs dans les débats de l'époque autour de la christologie, qui, lui, on pourrait dire que c'est un monophysite modéré, qui lutte contre Chalcédoine, mais tout en reconnaissant que dans le Christ, il y a effectivement humanité et divinité. Pour être plus clair, peut-être faudrait-il revenir au texte justement de la définition de Chalcédoine, que je peux lire. Nous enseignons un seul et même Christ, Fils, Seigneur, Fils unique, reconnu être en deux natures, sans confusion ni changement, sans division ni séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, mais bien plutôt la propriété de chacune des deux natures restant sauve et concourante en une seule personne ou hypostase, non pas un fils partagé ou divisé en deux personnes, mais un seul et le même fils, fils unique, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà la partie centrale de la définition de Chalcédoine, qui a été soutenue par Rome, qui est soutenue par les Chalcédoniens au temps de Justinien, qui est contestée par les monophysites, c'est-à-dire ceux qui tiennent à une seule nature unique du Christ, avec Sévère d'Antioche, sur un point particulier. Ils considèrent que l'humanité et la divinité dans le Christ, homme et Dieu, ne peuvent être distingués que par la pensée. On ne peut pas parler de deux réalités, l'humanité et la divinité, réunies, composant un Christ qui réunirait les deux natures. Cette distinction ne peut être faite qu'en théorie, et les Chalcédoniens reprochent à Océverien, justement, du coup, de ne pas admettre dans toute sa précision, son exactitude, la définition de Chalcédoine. Et la grande affaire de Justinien, tout au long de sa politique religieuse, ce sera d'essayer de gagner les Sévériens, tantôt en essayant de les concilier, tantôt en essayant de les réprimer, et le plus souvent, d'ailleurs, en attaquant le parti opposé, alors qui lui aussi était d'une certaine façon anti-chalcédonien, qui affirmait la division, la séparation des deux natures du Christ.
Donc un enjeu de taille, et on va voir plus tard de quelle manière, plus tard, c'est-à-dire l'émission prochaine, de quelle manière la réponse a été donnée au concile de 553 pour justement pouvoir tenir d'un côté les deux natures et d'autre fois l'unicité de la personne, parce que c'est l'enjeu évidemment majeur. Alors Alain Le Bouluec, merci beaucoup. C'était donc la première partie de cette émission consacrée à Justinien, empereur et théologien. Prochaine émission dans 15 jours. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.